Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous saluons aussi ceux qui nous visitent et que Dieu nous bénisse ensemble. Avant de commencer, je vais prier. Ensuite, nous partagerons cette méditation. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Nous voulons te dire, Seigneur, ouvre nos cœurs en cet instant pour être attentifs à ce que dit ta parole. Nous voulons te dire aussi, mets de l'intelligence dans nos cœurs pour nous faire connaître, Seigneur, tout ce que tu as ordonné dans ta parole. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Suite à la prédication du mois de juillet, nous avons parlé du combat spirituel. Que la vie chrétienne est un combat spirituel permanent. Le texte que nous avons lu déjà ce matin avec le frère nous montre qu'il y a toujours à lutter en permanence. En résumé, voici ce que nous avons partagé en parlant d'un thème, que le combat spirituel est un combat contre la chair. Nous avons partagé le texte de Galates, chapitre 5, qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Même si ce corps du péché a été vaincu par le Seigneur, mais il est là en nous. Il se réveille. Il se manifeste de différentes manières. Nous voyons que le combat se trouve à l'intérieur de nous, la chair. C'est-à-dire même quand on est converti, la chair, elle est là, en nous. Appelée souvent le vieil homme, et aussi appelée souvent le corps du péché. Je disais que même si ce corps du péché a été réduit à l'impuissance à la croix, même si ce corps du péché a été vaincu par le Seigneur, il est là en nous, il se réveille, et très vite, facilement. Il se manifeste de différentes manières, qui sont dans Galates 5. Toutes sortes de comportements. Galates 5, verset 20, il est parlé d'idolâtrie, la magie, les querelles, l'inimitié, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et le verset 21 continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On peut rajouter, là où il y a d'autres textes qui parlent de l'impudicité, l'impureté, adultère, débauche, immoralité. Voyons que la chair agit. Et encore, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, la liste n'est pas encore terminée. Vous pourrez même me dire un que j'ai oublié, quelque chose. Et voici que l'apôtre termine en disant au verset 24, Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Et il conclut au verset 25 en disant, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Et dans ce chapitre de Galates, il est bien décrit au verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que, de telle manière que l'homme ne puisse pas faire ce qu'il désire faire. Il est comme déchiré. Nous savons combien nous luttons avec nous-mêmes et avec les autres. Il veut faire le bien et il n'y arrive pas. Ici, la parole nous révèle quoi? Que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir honte, hein, de dire que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais qu'il faut l'intervention de la puissance de Dieu. La chair, elle est en nous. La chair reviendra à la charge tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le combat est donc engagé. L'ennemi emploie la chair pour nous pousser à faire du mal, à pécher contre Dieu. Contre Dieu. Quand nous péchons, c'est contre Dieu. Mais c'est à nous de veiller. À nous de veiller. Parce que le combat, il est interne, interne, il est en nous. Vous connaissez l'expression, l'enfer, c'est les autres. Nous n'accusons pas les autres comme on a tendance à dire, l'enfer, c'est les autres. Nous n'accusons pas les autres pour des combats. Il est en nous, la chair. Le combat contre la chair. La Bible nous dit que ce combat, il est permanent. Quel est le conseil qui est donné sur le plan spirituel? Le conseil est au verset 16 de Galates que nous avons lu. Marchez, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu ne nous met pas devant une réalité qui nous dépasse, qui nous déchire, sans nous donner la solution. Dieu ne nous dit pas, voici ce qu'il faut faire, simplement, mais il nous donne le moyen de nous en sortir. Mais la chair est là. Mais pour ne pas accomplir les désirs de la chair, nous avons quoi? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes capables, par la grâce de Dieu, de pouvoir marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire marcher d'une manière conforme à la parole de Dieu. Quand quelqu'un se met en travers de la parole de Dieu, il ne marche plus selon l'Esprit. C'est assez clair, c'est simple. Hein? Quand quelqu'un se met au travers de la parole de Dieu, il ne marche plus selon l'Esprit. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, un argent éprouvé, raffiné, sur terre au creuset, et cette fois épuré. C'est le psaume 12 qui le dit au verset 7. La parole du Seigneur, les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Il a dit aussi que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la force. C'est l'Esprit qui est la source de la vie spirituelle. La chair ne sert à rien. L'homme n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jean 6, verset 63 qui le dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. L'homme n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons rappelé aussi que l'esprit ne vous dira pas autre chose que la parole de Dieu dans ce combat spirituel. La victoire n'est que dans la soumission à la parole de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu nous dirige dans cette victoire déjà acquise par le Seigneur sur la chair. Aujourd'hui, nous allons terminer ce sujet du combat spirituel avec un deuxième thème. C'est le combat spirituel permanent contre les esprits. Il ne faudra pas que nous voyons des esprits partout. On a tendance à les voir n'importe où, mais la subtilité de l'ennemi peut nous montrer qu'il n'y a pas d'ennemi. Tout simplement pour que nous soyons vaincus. Que nous baissions la vigilance pour que lui puisse remporter la victoire. Les esprits sont réels. Non seulement ils oppressent les gens, parfois même ils possèdent les gens. Si cette puissance n'existait pas, nous pourrions dire que tout le Nouveau Testament n'a aucun sens, que l'œuvre de Christ n'avait aucun sens, parce qu'il a dit, il a chassé les esprits, parce qu'il a délivré ceux qui étaient possédés. Ce qui veut dire que cette réalité, elle est là, réelle et spirituelle. Dieu, par sa grâce, nous donne le discernement où est tel et tel esprit. Parfois, il ne s'agit pas de ces esprits qui sont des anges déçus, mais il s'agit d'un certain esprit qui conduit à certains comportements, tout simplement. Quand les disciples du Seigneur voulaient appeler le feu du ciel pour incendier tous ces gens qui avaient refusé l'hospitalité, le Seigneur les a regardés en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il y a différentes sortes d'influences des esprits véritablement. Il y a premièrement l'esprit de divination. Même dans les églises, peut se trouver cela. Ne pas dire « Amen » à tout ce qui se dit. La Bible nous dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses pour retenir ce qui est bien, conforme à la parole de Dieu. » Toujours la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a l'esprit de rébellion. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons cet esprit agir dans différents hommes dans la Bible. Vous étiez morts par vos offenses, dit la parole de Dieu, et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça, c'est l'esprit de rébellion. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. L'esprit de rébellion, nous le trouvons dans ce texte d'Éphésiens, car où il est dit l'esprit de rébellion qui agit puissamment dans ce monde pour rebeller les gens contre le Seigneur. Ça, c'est l'esprit de rébellion. Regardons le monde. N'y a-t-il pas une mauvaise influence? C'est vrai que nous n'avons jamais vécu cette situation que nous vivons aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a avertis qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura la violence. Oui, l'esprit de rébellion. Que l'esprit de rébellion qui agit dans le monde ne puisse pas nous influencer. Veillons et prions. Et c'est ce que nous faisons. Troisièmement, il y a l'esprit de dispute. Romains 2, verset 8. Pour des choses qui ne conviennent pas, on entre dans des discussions inutiles. On détruit l'œuvre de Dieu. On ne réalise pas que derrière cette discussion, cette dispute, il y a l'esprit de dispute, vraiment l'esprit de dispute. Et cela, depuis la maison, au travail, comme ça nous a été rappelé, partout. Vous allez faire des courses, vous sortez dans la rue, vous voyez l'esprit de dispute tout le temps. Toute occasion peut nous donner d'être en dispute. Et surtout en ces temps-ci, nous voyons que pour un rien, il y a agression, il y a meurtre. Oui. On ne voit pas que des hommes autour de soi. On ne voit pas que des hommes. Quatrièmement, il y a l'esprit de parti. L'esprit de parti, les gens, au lieu de voir l'unité du corps du Christ que nous formons, il y a des divisions, des partis pris. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Comme on le dit même toujours dans l'Ancien Testament, il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, d'Apollos, moi je suis d'Apollos. Les gens doivent comprendre que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes ici, tout simplement, nous sommes là parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a unis, qui nous a donné le même esprit, qui travaille pour l'unité, et que notre effort est de chercher le bien de la paix, pour garder l'unité de l'esprit, tout simplement qui a été acquis par le Christ. Ensuite, il y a l'esprit de vaine gloire. Que veut le monde? Que veut le monde pour nous? Le monde veut que les gens soient, comme on dit, à la page. Vous savez, cette expression, je ne sais pas, tout le monde le dit, être à la page, être à la mode, suivre la dernière mode, être conforme au goût du moment. Oui. Le monde veut que l'on puisse être à la page, tout simplement afin que l'on puisse les glorifier. Et vous voyez, toute gloire retourne toujours à un homme, à une femme. Oui, ils animent même les gens qui sont en Christ. Il ne faut pas dire, moi, quand je prie, les choses se voient. Ça, c'est voilà ce qui a été rapporté par quelqu'un qui prêchait. Moi, quand je prie, les choses se voient. Quand je pose les mains à quelqu'un, il y a un miracle qui se produit. Qui en est? Qui en est pour dire cela? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous qui guérissez quelqu'un. Les miracles, c'est Dieu qui, tout simplement, qui les opère. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, comment t'en glorifies-tu? Voilà ce que nous rappelle la parole de Dieu. Tout simplement, c'est la vaine gloire de croire que ce que l'on fait nous élève, oui, quelque part. Non, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Que pouvons-nous faire sans Dieu? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que ce sont des choses, des paroles qu'on répète, mais est-ce que dans nos cœurs, vraiment, nous réalisons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire? La chair vit tout simplement tellement facilement que, non, on a l'impression qu'on fait ça comme on veut, quand on veut. Personne ne m'empêche de faire ceci ou cela. Mais en réalité, on ne peut rien faire sans Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas d'être volé, pas n'importe comment. N'ayons pas n'importe quel comportement non plus. Dieu a dit, je suis un Dieu de gloire et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Oui, certaines responsabilités ou certaines fonctions où ce que nous faisons peut nous enorgueillir. Il y a l'expression qui dit qu'on se gonfle, hein, peut nous gonfler, au point de croire que nous sommes quelqu'un et que nous valons quelque chose. Personne n'est au-dessus de l'autre. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. On ne fait tout simplement qu'assumer chacun sa responsabilité. Ainsi, répondre tout simplement, nous répondons par là à la vocation que nous recevons, à la vocation que nous a adressée le Seigneur. Et chacun de vous doit répondre, chacun, à la vocation que Dieu lui a adressée. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte devant Dieu? Que l'on soit prédicateur, moniteur, monitrice d'école du dimanche, responsable de jeunes, garçon, fille, enfant, que l'on soit pasteur, ce qui compte devant Dieu, c'est que l'on soit trouvé fidèle. Que l'on soit trouvé fidèle, ce que Dieu cherche de tous ses serviteurs et ses servantes, tous ses enfants, c'est d'être fidèle. Attention à l'esprit de vaine gloire. Il y a aussi l'esprit de jalousie. Nous le retrouvons déjà dans l'Ancien Testament. La jalousie. Quand la jalousie commence, elle ne va pas s'arrêter à la jalousie. Elle va conduire plus loin. L'exemple que l'on donne souvent, c'est Caïn et Abel. La jalousie est allée jusqu'au meurtre. Ça Satan se met derrière et il vous donne la haine. Et la haine conduit à mal agir. Caïn tua son frère. Il a tué son frère. Tout simplement, la jalousie. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce que on ne soit sous aucune influence quelconque. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui être fidèles et que Dieu nous donne la grâce de discerner cette influence mauvaise pour ne pas tomber dans un péché quelconque. La jalousie, elle est très dangereuse. Elle aveugle. Et nous avons aussi, il y a l'esprit de prostitution. Il a envahi le monde entier et ira de mal en pire. N'ayons pas peur de le dire. Prenons un exemple qu'on donne toujours, c'est à la télé. Tout est là. Quand vous voyez les pubs actuellement, tout est là pour souiller. Veillons pour ne pas subir, Seigneur, bien, mais ne pas subir aucune influence. Il y a l'esprit de mensonge. Ne minimisons pas les mensonges. Parce que le mensonge appartient à qui? À l'ennemi de nos âmes. Le mensonge appartient à Satan, parce que c'est lui le père des mensonges. Que Dieu nous dirige et ouvre notre intelligence pour nous faire connaître tout ce qu'il a ordonné. Il y a aussi l'esprit de timidité. Certaines personnes ont de la timidité pour servir Dieu. Ont même de la timidité pour prier Dieu. La Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Ne soyons pas sous l'influence de cet esprit de timidité qui nous empêche de servir Dieu, de louer Dieu, de glorifier Dieu, surtout dans l'assemblée. La liste est peut-être encore plus grande. Mais le point central ici, c'est de dire, veillons de ne pas être influencés d'un esprit quelconque et que l'Esprit de Dieu nous conduise. Pour conclure, Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici, il s'agit de la mort éternelle. Si vous croyez, vous êtes passé de la mort à la vie pour toute l'éternité. Si vous dites à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ qu'il est mort spirituellement, séparé avec Dieu, il ne va pas comprendre. Il ne sait pas que bien que vivant physiquement, spirituellement, il est mort, séparé avec Dieu. Jésus va dire dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est donc ressuscité spirituellement. Il n'est plus séparé avec Dieu. Ne soyons pas sous l'influence d'un esprit quelconque qui nous empêcherait de servir Dieu, de le louer, de glorifier Dieu dans l'assemblée et dans l'Église. Amen.